Bonjour et bienvenue sur la web radio du Collège François Rabelais.
Bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, nous allons réaliser une émission spéciale autour de deux journées qui se sont déroulées le jeudi 19 et vendredi 20 avril, les Rabelaisiennes.
Alors tout d'abord, nous allons accueillir une professeure du collège. Bonjour Madame Jacquemin, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Bonjour, je suis Madame Jacquemin, je suis professeure d'histoire-géographie et ça fait maintenant 7 ans que je suis au collège.
Pouvez-vous nous expliquer le but des Rabelaisiennes et en quoi ça consiste ?
Oui, alors les Rabelaisiennes, comme vous l'avez dit, ce sont deux journées qui sont fixées en tout début d'année dans le calendrier de l'année scolaire. Deux journées pendant lesquelles les élèves et les professeurs n'ont pas leur emploi du temps habituel. Et à la place, ils participent à des ateliers et à des conférences. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça ? C'est parce qu'avec la réforme du collège et avec le nouveau brevet, les élèves de 3e passent un oral qui compte sur 100 points pour le brevet. Un oral sur lequel ils sont vraiment libres au niveau du choix du thème abordé. Et les textes officiels leur demandent maintenant de prendre un élément qu'ils ont pu travailler au cours de leur scolarité au collège dans un des parcours qui ont été déterminés par la réforme. Alors, c'est-à-dire le parcours citoyenneté, parcours d'éducation artistique et culturelle, parcours santé. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'on est dans un collège où on propose quand même beaucoup de projets aux élèves, mais en fonction des classes dans lesquelles ils se sont retrouvés durant leur scolarité, ils ont fait plus ou moins de projets. Donc l'idée, c'était de se dire que sur ces deux journées, on allait proposer les mêmes thèmes, les mêmes activités, les mêmes conférences à tout un niveau de classe. C'est-à-dire que les sixièmes ont tous les mêmes activités, même chose pour les cinquièmes, les quatrièmes, les troisièmes. Et donc ces thèmes et ces ateliers et ces conférences, elles sont choisies justement pour leur permettre de travailler le parcours santé, le parcours citoyen, le parcours d'éducation artistique et culturelle. Ça leur donne la possibilité plus tard en troisième de pouvoir s'appuyer sur ces journées pour leur oral de brevet.
On va découvrir plus en détail certaines actions réalisées durant les Rabelaisiennes grâce à des petits reportages réalisés pendant ces deux jours.
Oui, tout à fait. Et nous commençons avec une interview d'une intervenante sur le handisport, Aude Leget, du comité départemental handisport.
Alors le handisport, c'est des activités sportives pour les personnes qui ont un handicap. C'est comme vous pour les fédés sportives comme le foot ou le basket. Nous, on a le comité handisport qui regroupe en gros tous les sportifs qui ont un handicap moteur et sensoriel et avec eux, on fait une pratique sportive. Les capacités sportives sont les mêmes que pour les valides, c'est-à-dire qu'il faut être endurant, il faut avoir une bonne condition physique pour pouvoir réaliser au mieux les disciplines sportives en fonction des différents handicaps, en effet. Alors au niveau du handisport, on a quelques disciplines, on en a 13 qui sont paralympiques, avec des disciplines qui sont rajoutées pour l'handisport comme la boccia qui est de la pétanque en salle. La sarbacane également. Après, globalement, on retrouve le basket fauteuil qu'on a en fait chez les valides qui se prénomment le basket. On a énormément de disciplines en commun avec les valides. Oui.
Et donc ici, quelles sont les activités proposées pour cette démonstration ?
Alors aujourd'hui, on propose des disciplines sportives et ludiques. Donc en sportive, on a le foot amputé, donc on simule l'handicap qui est l'amputation. Nous avons la boccia, qui est un sport qui est pour les personnes plus lourdement handicapées, donc qui est de la pétanque en salle. La sarbacane, pareil, qui est proposée pour des personnes qui ont un handicap plus lourd. Et après, on retrouve le basket fauteuil, qui est une activité assez importante sur le handisport. Et on termine par le parcours déficient visuel, où là, l'objectif est d'apprendre à guider une personne qui ne voit pas en utilisant la technique internationale de guide. Il y a eu les Jeux paralympiques en mars, là, qui s'est déroulé en hiver. On joue les Jeux paralympiques aussi d'été. Donc oui, on a des sportifs de haut niveau en handisport.
Et quel est le sport le plus pratiqué, le plus représenté en handisport ?
Le basket fauteuil. Alors en fonction des handicaps, il y a des catégories pour en fait les classifier. Sur les personnes qui sont marchands, on a les mal marchands. Donc après, en fonction de leur capacité, on les met en catégorie. Sur les personnes qui sont paraplégiques, tétraplégiques, pareil, on a des catégories aussi. L'idée, en fait, c'est que vu qu'il y a chacun un handicap différent, il faut quand même essayer de mettre des classifications pour qu'ils jouent en fait contre des personnes qui ont les mêmes capacités qu'eux.
Donc toi, Nathan, tu as participé à cette démonstration. Qu'en as-tu pensé ?
J'ai trouvé que c'était une très très belle démonstration, qu'on a participé à plein de sports qu'on pratique mais qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer comme ça, comme le basket fauteuil par exemple. On se rend compte que c'est plus difficile quand on est dans un fauteuil que quand on marche, J'ai découvert de nouveaux sports aussi, comme la sarbacane, que j'avais jamais fait avant. Le foot en béquille, c'était très très difficile. Parce que fallait pas poser les pieds par terre. Vu qu'on quand on fait du foot, on a l'habitude de poser les pieds par terre, c'était très dur.
Merci. On va maintenant écouter un second reportage sur les handichiens, les chiens d'assistance pour personnes en situation de handicap.
Et pour cela, nous avons interviewé une professeure du collège, Madame Perrin, qui bénéficie d'un handichien et nous en a parlé.
Alors, j'ai ce projet, donc c'est présenter ce qu'est un handichien. Je suis en situation de handicap, je suis paraplégique et donc en fauteuil roulant. Et je suis accompagnée au quotidien par une chienne Lost au collège que les élèves côtoient tous les jours. Donc j'ai décidé de présenter aux classes de sixième que je n'ai pas le travail d'un handichien et comment un chien d'assistance aide au quotidien une personne en situation de handicap. Un chien d'assistance peut aider de plusieurs manières. La première, c'est que je n'ai pas accès à tout ce qui est au sol, donc elle me ramasse tout ce que je fais tomber, tout ce qui est par terre, et tout aussi ce que les élèves aussi peuvent faire tomber, les boulettes de papier, les crayons, etc., elle va me le rapporter. La deuxième, c'est que ouvrir une porte et surtout la refermer, pour moi, est très compliqué. Donc c'est Lost qui va ouvrir et fermer les portes, c'est pour ça que vous avez des bandoulières qui sont accrochées aux poignées de porte. Et la troisième, c'est prévenir. Si jamais il m'arrivait quoi que ce soit, pouvoir prévenir rapidement mes collègues autour, elle va aboyer, elle aboie que sur commande, donc elle peut prévenir autour, les classes autour. Alors, un handichien a 2 ans de formation. À 2 mois, il va en famille d'accueil. Il va être élevé de ses 2 mois jusqu'à 18 mois par une famille d'accueil qui va lui apprendre une trentaine de commandes. Le sociabiliser, etc., marcher en laisse, les commandes de base d'un chien bien éduqué. Et à 18 mois, le chien d'assistance va intégrer ce qu'on appelle la grande école, donc un centre d'éducation handichien avec les éducateurs. Et pendant 6 mois, il va apprendre tout ce qui touche vraiment le handicap. Être familiarisé avec un fauteuil roulant, allumer les lumières comme Lost le fait, etc. Pouvoir aller chercher au fond d'un placard, pouvoir prévenir. Tout ce qui touche le handicap, tout ce qui est lié au handicap, ils vont l'apprendre pendant ces 6 mois. Donc à la fin, on a un chien qui connaît une 50aine de commandes et qui peut en apprendre d'autres. Lost, par exemple, a appris la commande poubelle. Elle ramasse une boulette de papier dans la salle de classe et elle va le mettre à la poubelle. Un chien d'assistance va prendre sa retraite entre 8 et 10 ans. Donc pour Lost, elle prend... ce sera à moi de voir en tant que bénéficiaire, mais elle prendra sa retraite, je pense, quand elle ne pourra plus se mettre sur ses pattes arrière pour allumer les lumières, quand elle aura du mal avec les portes, etc. Et je pense aussi quand les collégiens commenceront à l'agacer. On va dire que quand on verra que par la fatigue et par la vieillesse, elle a moins de patience, là, il faudra à un moment donné que je dise stop. Je voudrais un chien, ce qu'on appelle un chien de renouvellement. Et Lost partira à la retraite. Alors, soit je le garde avec moi, après, etc. Ça dépendra à ce moment-là ma santé, mais elle restera à la maison, elle ne viendra plus au collège. Soit elle va aller dans sa famille d'accueil, celle qui l'a élevée pendant 18 mois, parce que eux, ça a été très compliqué pour eux. On imagine bien, c'est très dur d'élever pendant 18 mois un chiot, et puis tout à coup, de lui dire au revoir, et de ne pas forcément le revoir par la suite. Donc, soit elle va retourner dans sa famille d'accueil, donc sa famille d'accueil possédait un hara, il y a pire comme retraite. Soit sinon, il existe des familles d'accueil spécialisées dans les chiens qui sont à la retraite. Donc, ils vont avoir des très grands terrains et vraiment, leur travail à eux, c'est de chouchouter les vieux chiens et leur offrir la meilleure vie possible parce que ce sont des chiens super-héros, ils l'ont bien mérité.
Grâce à cette intervention, on comprend mieux le rôle et la présence de Lost dans le collège.
Alors, vous, Madame Jacquemin, qu'avez-vous animé comme atelier durant l'ère ablésienne ?
Alors, moi, de mémoire, je crois que j'ai animé 3 ateliers, au moins. J'ai juste accompagné le petit déjeuner des cinquièmes, mais qui était animé par une autre collègue. J'ai accompagné aussi des élèves de troisième qui ont eu la chance de pouvoir assister à la conférence d'une rescapée d'Auschwitz, qui est venu leur raconter toute son expérience, qui était donc cette venue-là s'intégrait dans leur programme d'histoire et aussi dans le parcours citoyenneté. Et puis, on a aussi, avec des élèves de 3e, travaillé sur l'immigration. C'était là aussi en lien avec le programme d'histoire et le parcours citoyen, puisqu'il s'agissait comme document support d'un documentaire qui a été réalisé par une association sur l'immigration en Anjou. Puis à partir de ça, il y a eu un petit temps de réflexion derrière sur ces questions, ces enjeux sociaux liés à l'immigration. Et enfin, avec les 5e, j'ai co-animé avec un collègue un atelier sur l'égalité filles-garçons.
Alors, en quoi c'est important de parler de l'égalité filles-garçons au collège ?
Alors, c'est très important parce que, avec la question des rapports filles et garçons, on touche à un domaine dans lequel les discriminations sont massives et solidement ancrées culturellement, historiquement dans nos sociétés. Et c'est vrai que les élèves arrivent avec un bagage différent en fonction de leur milieu social, culturel, familial aussi. Pour certains, l'égalité filles-garçons, ça coule à peu près de source parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent constater à la maison, dans le partage des tâches domestiques, dans le temps passé avec les enfants ou autre, ou tout simplement les relations qu'ils peuvent voir entre le père et la mère. Et puis pour d'autres, c'est pas forcément le cas. On arrive en fait avec tous les stéréotypes et les préjugés que la société véhicule, et des fois de manière complètement inconsciente. Et donc l'objectif, c'est de leur faire prendre conscience de ça, de bien montrer qu'il n'y a pas que l'égalité en droit qui existe, il faut aussi qu'on tende vers ce qu'on appelle l'égalité réelle. Les femmes peuvent faire les mêmes choses que les hommes. Et on ne le fait pas que pour les filles d'ailleurs, pour les garçons aussi, pour leur expliquer que certains stéréotypes qui sont attachés aux garçons peuvent être bridants pour certains garçons. Ça peut faire en sorte qu'ils n'osent pas avouer certaines passions, certains loisirs, ou ils peuvent brider leurs envies aussi parce qu'ils peuvent avoir tendance à se dire non, un garçon il n'est pas censé faire ci, il n'est pas censé faire ça. Donc c'est important aussi qu'on en parle en collège, parce que selon les élèves, il y en a qui en parlent chez eux, d'autres qui n'en parlent pas du tout.
Merci beaucoup pour ces explications. On va maintenant découvrir un autre atelier proposé pendant les Rabelaisiennes sur les risques auditifs.
Et pour cela, nous avons interviewé Madame Sally, professeure de musique au Collège François Rabelais, qui nous présente ses différents risques.
Donc la perte d'audition, c'est-à-dire que vous entendez moins fort. Ensuite, vous entendez de façon moins riche. Ça, c'est normal. Quand on vieillit, on perd en premier tout ce qui est aigu, et surtout aussi avoir des problèmes, ce qu'on appelle des acouphènes. Donc les acouphènes, ce sont des bruits qu'on ne devrait pas entendre, mais qui peuvent donc être transitoires, c'est-à-dire vous êtes parti écouter de la musique, un concert, vous êtes resté trop longtemps près des enceintes, et vous êtes parti avec les copains, vous avez fait une soirée, vous avez écouté trop fort, et le lendemain, vous avez comme des bourdonnements, ou vous avez l'impression d'avoir mal aux oreilles. Donc là, ça veut dire que vous avez écouté dans de mauvaises conditions, trop fort. Donc ça peut être transitoire, c'est-à-dire que si vous vous reposez, vous faites bien attention, ça va disparaître. Mais si vous le faites trop souvent, là, ça va casser les cellules ciliées, et là, vous pouvez avoir des bruits qui peuvent rester toute votre vie. Des sifflements, des chointements, des bruits insupportables, et qui font que ça vous rend la vie impossible. Voilà.
Donc ce que vous nous expliquez, c'est que si jamais on avait un problème auditif, on devrait essayer d'arrêter d'écouter de la musique et l'écouter moins forte.
Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, ça veut dire que c'est un signal d'alarme. Ah, je dois aller me reposer. Faire attention. Si vous avez encore au bout de 12 heures, 24 heures, encore cette gêne, où vous avez mal aux oreilles, où c'est cotonneux, où il y a des sifflements, là, il faut aller voir le médecin.
Et à partir de combien de décibels pouvons-nous avoir des problèmes ?
Alors, ça dépend. Donc, 85 décibels, donc, c'est le seuil. Donc là, par exemple, vous avez le droit à une dose quotidienne de en dessous 8 heures. En dessous de 8 heures. Là, ça va. Deuxième seuil. Le seuil de danger, cette fois-ci, c'est 90 décibels. Et là, vous avez le droit en dessous de 2h30. Et au-dessus, alors là, c'est très, très, très dangereux. Il ne faut pas. Alors, l'histoire des décibels, il faut savoir que si vous avez, admettons, 90 décibels et 93 décibels, c'est comme si on doublait le son. Vous voyez ? Donc ça fait une différence. 90, 93, on se dit « oh, c'est pas énorme ». Mais c'est comme si vous aviez, on va donner un exemple, 10 trompettes qui vont faire 90 décibels. Et bien 93 décibels, c'est 20 trompettes. Vous voyez la différence. Donc on veut faire comprendre aux élèves que malgré leur jeunesse, il faut que dès à présent, ils fassent attention à leurs oreilles.
Voilà, nous savons maintenant pourquoi nous devons nous protéger les oreilles.
Alors, toujours dans le domaine de la prévention, les élèves de 3e ont pour leur part été formés aux gestes qui sauvent. Nous allons maintenant écouter David Sals, professeur de PS au collège et formateur du brevet de secouriste.
Là, je suis en train de former les élèves aux gestes de premier secours, aux gestes qui sauvent. Donc c'est les gestes de secours. Alors, ce n'est pas le diplôme, le vrai diplôme de secourisme dans lequel, pour lequel il faut une journée et demie de formation. Donc on n'a pas le temps de faire cette formation-là pour tous les élèves. Donc là, c'est une formation accélérée où on présente les gestes principaux, hein, on va dire les gestes de base du secourisme sur 3 heures. Donc en l'occurrence, là, nous sommes sur bien alerter, savoir alerter en cas d'accident, protéger pour éviter un suraccident. Lorsqu'il y a un accident, protéger pour éviter qu'il y ait d'autres victimes. Et ensuite, prendre en charge une hémorragie, et stopper l'hémorragie pour éviter donc l'aggravation de la victime, l'état de la victime. Prendre en charge donc une victime qui est inconsciente, donc la mettre en position de sécurité, latérale de sécurité, et ensuite prendre en charge une victime qui est en arrêt cardiaque et donc apprendre les gestes de réanimation cardio-pulmonaire. Alors, en effet, on a vu ça ce matin déjà là, sur la première heure. En effet, il y a un ordre de priorité. Hein. Tout ce qui est autour de l'alerte au secours, il faut que ça arrive très tôt. Hein. Il y a aussi des gestes physiques qu'il faut réaliser très vite. Par exemple, l'hémorragie, il faut comprimer très très vite la plaie. Voilà. Ensuite, on a protégé, c'est une des premières étapes aussi, puisque si on ne débranche pas un appareil, par exemple, qui a créé un accident, on peut créer un deuxième accident. Donc en effet, il y a des ordres à respecter. En fonction des accidents, en général, c'est protéger, faire les premiers gestes de secours et alerter. Un numéro, enfin on a plusieurs numéros, mais finalement qui répondent à la même chose, hein, que ce soit le 15, le 18 ou le 112, ce sont des numéros d'urgence et on peut appeler n'importe lequel, ils pourront nous répondre et envoyer des secours très vite.
Voilà, nous arrivons au terme de l'émission. On a pu voir à travers ces différents reportages que nous avons pu découvrir des choses très intéressantes et que l'on ne voit pas forcément en cours.
Alors, pour finir, Madame Jacquemin, pouvez-vous dire si cette opération sera reconduite l'année prochaine et faire un bilan rapide des Rabelaisiennes ?
Oui, alors pour le bilan, il faut savoir que les élèves ont été destinataires d'un questionnaire ou d'un sondage aussi sur ces Rabelaisiennes. Dans l'ensemble, on peut constater qu'ils étaient satisfaits, voire très satisfaits des ateliers qui avaient été proposés. Certains, donc, l'étaient un petit peu moins sur d'autres thèmes, soit en fonction des sujets qui étaient abordés, qui ne leur parlaient pas plus que ça, soit des fois en fonction des intervenants avec lesquels ça ne passait pas forcément. Mais dans l'ensemble, le bilan est très positif. On a pu constater, par exemple, vous avez passé un reportage sur le handisport, que le handisport, c'est quelque chose qui avait beaucoup plu aux élèves. On a aussi des élèves de 3e qui ont été très marqués par le témoignage de la rescapée d'Auschwitz, Esther Senot. Certains lui ont écrit des très belles lettres. D'autres ont choisi d'ailleurs le thème du génocide et surtout ce témoignage comme point de support pour passer leur oral de brevet. Ils ont produit des oraux très très satisfaisants. Donc dans l'ensemble, oui, on est très contents. Et puis les professeurs de leur côté aussi ont constaté que certains ateliers s'étaient avérés très utiles, par exemple sur le harcèlement. Il y a des situations qui ont pu être en partie débloquées grâce à ces temps de parole, avec des professeurs d'ailleurs qui n'étaient pas toujours ceux qui ont la classe en charge. Donc oui, un bilan très positif. On espère donc que les Rabelaisiennes seront reconduites l'an prochain. Ce sera encore une organisation assez lourde à mettre en place. Mais on aimerait vraiment bien que ça puisse se poursuivre.
Merci beaucoup, Madame Jacquemin, d'être venue répondre à nos questions aujourd'hui. Nous remercions aussi l'ensemble des professeurs qui se sont prêtés au jeu des interviews. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles émissions de radio dans le collège. Au revoir.
Au revoir.